Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Aujourd'hui, nous retrouvons Harry Eliezer pour comprendre l'impact de la connaissance de soi sur le charisme. Harry est consultant en communication et coach en prise de parole en public. Avant ça, il a eu plusieurs vies, celle de comptable, puis de chroniqueur et journaliste à France Télévisions et Radio France. Il en a parcouru des étapes avant de devenir l'orateur qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qu'il va nous dévoiler dans cet épisode avec authenticité et spontanéité. Bonjour Harry.
Bonjour Lydia.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour passer de l'autre côté du miroir et ne pas être chroniqueur mais interviewé. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux se connaître permet de développer son charisme. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement ?
Je m'appelle donc Harry Eliezer. Je suis né à Paris, de famille antillaise. Je suis quelqu'un qui adore la vie, qui sourit beaucoup. Je suis quelqu'un de très sensible aussi. Je suis un personnage qui est soucieux aussi du bien-être des autres, qui a envie de faire avancer les choses, les autres aussi, enfin essayer de faire en sorte qu'ensemble, on puisse avoir des vies sympas, voilà. Et puis, je suis quelqu'un de plutôt dynamique aussi, enfin, voilà, un bon vivant d'une manière générale.
Merci beaucoup. On parle beaucoup de la prise de parole en public. C'est quelque chose qui est très exaltant, mais en même temps qui fait peur. Pourquoi ce sujet fait peur ?
Ce sujet fait peur, à mon sens, parce qu'il nous met en face de nous-mêmes. Quand on prend la parole en public, on ne peut plus véritablement se mentir, parce que le reste du temps, on se raconte beaucoup d'histoires. On se fabrique un personnage, on essaye de paraître aux yeux des autres autre chose. Et puis là, quand on se retrouve en face du public, on sait qu'on se raconte des conneries. On sait qu'on est un autre personnage le reste du temps. Et là, on a peur que les autres nous perçoivent, nous percent au grand jour. Et donc tout le travail, c'est d'apprendre à être véritablement soi-même, tout le temps, en permanence. Comme ça, quand on se présente devant les autres, on n'a plus de problème.
Et comment on fait du coup pour être soi-même ?
Ah, ça c'est un vrai travail. C'est un vrai travail parce que moi-même qui te parle, eh bien ça m'a pris un petit peu de temps parce que je suis initialement quelqu'un de profondément timide. C'était un truc infernal. J'étais capable de descendre d'un train, puisque j'habitais en banlieue parisienne, j'étais capable de descendre d'un train parce que j'avais vu quelqu'un que je connaissais, mais je savais pas quoi lui dire. Donc je préférais prendre le train d'après, plutôt que de me retrouver en face de cette personne et pas savoir quoi lui dire, quoi. C'était ça, c'était à ce point-là. Wow. Déjà, pour moi, le tête-à-tête, c'était parler en public.
Okay.
Et puis ce qui m'a pas mal aidé, c'est que pour des raisons X ou Y, en fait, j'ai été suivi ma mère dans une église protestante. Moi, ça m'a sauvé la vie puisque je partais un peu en cacahuète. Et dans cette église-là, où il y avait 1000 personnes chaque samedi, je me suis retrouvé très rapidement, à l'âge de 16 ans, à parler devant des gens, devant un petit groupe d'abord, et puis à parler devant l'assemblée ensuite. 1000 personnes tous les samedis, j'avais 16 ans. Il y a quelqu'un qui m'avait repéré, qui m'avait dit « Mais toi, t'es doué pour ça, il faudrait que tu viennes aux communications ». Et j'étais ultra flippé, moi, enfin.
Pourquoi tu penses qu'il t'avait dit ça, que tu étais doué, alors que toi, tu te considérais justement comme quelqu'un de très timide ?
Je sais pas, il trouvait que j'avais une bonne élocution, peut-être. Moi, j'avais une vision de moi qui était extrêmement dévaluée. tant que je pouvais sous-évaluer, moi j'y allais à fond, quoi. Donc je n'avais aucune idée de ce que je pouvais renvoyer, et je ne savais pas du tout ce qui l'intéressait, mais en tout cas j'ai eu le sentiment que dans ma façon de m'exprimer il y avait quelque chose qui l'interpellait, et il s'est dit tiens, il faudrait que ce gars il puisse s'exprimer plus.
Pourquoi tu lui as dit oui?
Parce que je suis un taré, en fait. parce qu'en fait, quand on est timide, on est aussi très... très nombriliste. C'est parce qu'on... La timidité, c'est, à mon avis, un excès d'ego. On passe son temps à se regarder. Et parce qu'on se regarde de trop, eh bien, on perd le contact avec les autres. Et donc, je pense que ce moment-là, ouais, j'avais besoin de briller aussi. J'avais besoin qu'on me reconnaisse. Et donc, j'y suis allé. Mais c'est quand je me suis retrouvé devant les gens, je me suis dit, ah, mais t'es complètement taré, mon gars. Parce que j'étais tremblant devant les gens. C'était pas forcément un moment super agréable.
Donc, pour toi, justement, pour être charismatique, il faut se détacher de son ego.
Alors le charisme, c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai tendance à penser que pour être bien, pour que les autres nous perçoivent bien, parce que le charisme c'est peut-être ça, c'est la perception de l'autre comme étant quelqu'un de vraiment bien ancré dans sa personnalité, dans ses bottes, voilà. Pour que les gens ils nous perçoivent comme ça, faut que nous-mêmes on soit au fond de nous bien avec nous-mêmes. Autrement, même si ce ne sont pas des personnes qui lisent le langage corporel, toutes les personnes qu'on a en face vont ressentir quelque chose, vont percevoir qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ouais, le charisme, comme tu dis, va avec un travail sur soi pour se retrouver soi, arrêter de jouer un personnage. Accepter d'être ce qu'on est avec ce que la providence, la nature, tout nous a donné, quoi.
Donc finalement c'est une question de quête de son identité et aussi de confiance en soi.
Ouais, ça c'est intéressant, la quête de son identité, quand tu poses cette question, parce que moi très vite je me suis retrouvé confronté à ça. Je vous l'ai dit, enfin je te l'ai dit au départ, je suis né de famille antillaise, mais je suis né à Paris. Et donc, ça a été très vite un petit peu compliqué parce que première semaine d'école, l'instit, alors moi, les Antillais de la génération de ma mère, pour eux, ce qui était important, c'était de bien parler le français. Parce que quand on parle bien le français, eh bien, on est intelligent, quoi. Et puis, ça permet aussi de mieux s'intégrer à la société française. Quelqu'un qui parle bien le français, c'est un personnage digne d'intérêt dans la génération de ma mère. Et donc, on m'a donné un stylo, j'ai appris à lire très tôt. Je pense que à l'âge de 5 ans, je savais lire. Et le problème, c'est que quand j'arrive à l'école, moi, je n'ai jamais touché un pinceau de ma vie. Et on me donne un pinceau et de la peinture. Je suis derrière un pupitre et je prends la première peinture qui passe. Et c'est une peinture noire et je fais une sorte de grand gribouillage noir. Là où tous les autres ont fait des maisons, des papas, des mamans, parce qu'ils ont l'habitude de dessiner. Et l'instit vient derrière moi et elle se met en colère et elle me dit « Ah, mais c'est quoi ce que tu viens de faire ? Ah, tu aimes le noir, petit négro ?» Eh bien tiens, et elle me peint le visage en noir. Et donc là commence le gros souci de ma vie. Comment être français quand on est noir? Et ça, ça a été très... ça m'a poursuivi mon enfance, mon adolescence, et ça a généré ce questionnement identitaire. Si sans arrêt on me renvoie le fait que je suis pas français parce que je suis noir, je suis quoi alors? Et quand je vais aux Antilles, on me dit que je suis un Français. Alors c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je suis? Et donc ça m'a poussé au fur et à mesure à me poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être un individu, un être humain. Et à partir de là, Et très tôt, hein, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à faire des recherches sur les Antilles, sur les répercussions de l'esclavage sur les Antillais. Et puis après, j'ai tardivement commencé un travail psychologique avec des thérapeutiques, hein, avec des psys. Peut-être un peu trop tard, hein, j'avais 30 ans, enfin je dis trop tard, hein, c'est jamais trop tard
voilà.
mais j'aurais aimé le faire plus jeune, et ça m'aurait libéré plus tôt, mais tout ça a été tout un cheminement en fait pour accéder à ma personnalité, accepter d'être un Français mais aussi un Guadeloupéen à part entière. Je suis 100% français, 100% guadeloupéen, et j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens.
Du coup, est-ce que tu dirais que le charisme s'affirme avec les années, avec l'expérience de la vie ?
Ça dépend. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui avaient la vingtaine et qui, moi, m'impressionnaient. J'aurais adoré être comme elle quand j'avais la vingtaine. Ça dépend, je pense, de l'éducation qu'on a reçue, du contexte dans lequel on a grandi, et aussi de la capacité qu'a la famille à nous autonomiser rapidement. Parce qu'en fait, ce qui aide à prendre confiance, c'est toutes ces petits travaux d'autonomie où finalement on découvre qu'on peut arriver à faire les choses par nous-mêmes. Voilà. Et il faut beaucoup d'amour, hein, c'est sûr, mais l'amour plus cette autonomisation, ça permet très très vite d'acquérir une confiance en soi, en ses capacités. Moi, je n'en avais aucune.
Mais finalement, si de base, tu dis que tu avais été choisi par la personne qui s'occupait de la paroisse parce que tu avais une bonne éducation, c'est que quelque part, il y a aussi quelque chose qui est inné. Il n'y a pas que de l'acquis, c'est un mélange des deux.
Inné, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont faits pour prendre la parole. Je n'y crois pas. Je crois qu'à partir du moment où on a un cerveau qui fonctionne, on peut avoir des choses à dire. Donc je ne crois pas du tout en ce que les choses peuvent être innées. Je vous l'ai dit, moi, ma mère, elle insistait pour que je parle un français parfait. Parce que j'aurais pu parler le français comme ça, oui, avec le petit accent. Mais non, ça aurait montré que je ne suis pas tout à fait éduqué. Il fallait que je parle comme je le suis. Et donc, cet accent a tellement été mis, et au point que l'été, quand mes copains continuaient à jouer dehors et tout, moi, j'avais 2 heures de grammaire obligatoire. Il fallait que je remonte pour pouvoir me taper des exercices de grammaire. C'était saoulant, quoi. Mais je la remercie, ma mère, aujourd'hui, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que j'avais une diction et un français qui était probablement bon, mais c'est parce que je travaillais, enfin, voilà.
Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il y a la confiance en soi qui est hyper importante pour se libérer du regard des autres. Mais de manière un petit peu paradoxale, je sais qu'il y a une citation que tu avais utilisée dans le TEDx auquel tu avais participé, qui était « Le paradoxe de la condition humaine est qu'on ne peut devenir soi-même que par les autres. »
Ouais.
Comment tu arrives à combiner les deux ?
C'est super intéressant parce qu'en fait, je pense que si j'avais grandi en Guadeloupe, je ne me serais pas posé toutes ces questions. Et j'aurais mis beaucoup. Alors peut-être que je n'aurais jamais atteint le stade où je suis aujourd'hui. C'est parce que je me suis retrouvé confronté à ce regard porté sur ma différence que j'ai été obligé de me poser des questions. Et à aller me poser des questions qui m'amenaient vers ce que je suis au fond, moi. Je me serais peut-être jamais posé ces questions si j'étais né et que j'avais grandi en Guadeloupe. Donc ouais, le regard des autres, mine de rien, même s'il est douloureux parfois, il est aussi nécessaire parce qu'il nous renvoie, c'est une sorte de miroir qui nous renvoie ce que nous sommes à un moment T. Le problème, c'est que quand ce miroir, si, ce regard, s'il nous enferme, là, c'est embêtant. Et il faut jamais se laisser enfermer, parce que on est quelque chose à un moment T, mais on évolue. Et notre, moi, je pense que notre passage sur Terre, c'est pour être quelqu'un de différent entre le moment où on est né et le moment où on va mourir, quoi. Voilà. C'est évoluer, grandir.
C'est super intéressant que tu donnes tous ces détails sur ta vie. Et je sais que maintenant, tu es coach et que tu as essayé d'appliquer tout ce que tu avais appris pour créer une sorte de méthodologie qui t'est propre, basée sur justement l'identification et le fait de se débarrasser des croyances limitatives. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu?
Oui. Étant moi-même un ultra, ultra, ultra grand timide au départ, je me suis dit que pour aider les gens, il fallait que je reparte et que je reprenne tout le chemin que j'avais parcouru et comment j'en étais arrivé à être le personnage que je suis aujourd'hui. Si vous me voyez dans le métro et que j'ai mes écouteurs, vous me verrez danser. Si vous voyez dans la rue, je peux chanter. C'est-à-dire que le regard des autres m'importe peu. En fait, moi, si j'ai quelque chose à dire ou à vivre dans le moment présent, je vais le faire. Et je me suis demandé comment j'avais fait pour pouvoir en arriver là. Et une des choses qui me semble essentielle, c'est d'être convaincu de sa valeur en tant qu'être humain. ça peut paraître simple comme ça, mais la plupart des gens que je peux côtoyer ou accompagner ont tendance à penser que leur valeur dépend de leur boulot, dépend de l'argent qu'ils peuvent avoir sur leur compte en banque, dépend de plein d'éléments extérieurs à eux-mêmes. Et moi, je pense que ma valeur dépend du fait que je suis un être humain. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Si j'ai plus d'argent un jour, je reste un être humain et j'ai de la valeur. Il m'arrive n'importe quoi, je serai toujours quelqu'un de valeur parce que je suis un être humain. Et ça, y a plein de croyances qui viennent contrecarrer cette vision-là. Des croyances qui viennent du fait que, au départ, on est comme les animaux, nous. On est comme les chiens. Vous savez, pour éduquer un chien, on peut lui mettre des coups, mais c'est pas super efficace parce que le chien, il aura peur de nous, mais il va pas faire les choses parce que il a été vraiment éduqué. Pour l'éduquer, eh bien, il va falloir lui faire les choses et puis lui donner un petit biscuit à la fin. Et après, on pourra enlever le petit biscuit. Nous, c'est pareil. Notre petit biscuit, c'est l'amour. Quand on a repéré qu'on reçoit de l'amour ou de l'intérêt, soit de nos amis, soit de notre famille, eh bien, on va reproduire ce truc parce qu'on a besoin de ce petit biscuit qu'est l'amour. Voilà. Et puis, ça va générer, au fur et à mesure, un type de fonctionnement qui, dans le meilleur des cas, va vraiment nous aider, mais par moment, et c'est généralement le cas, va nous limiter à un moment donné. Exemple. Moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui, parce que leurs parents leur ont donné cette injonction, donc il fallait faire plaisir aux parents, et quand tu fais plaisir à tes parents, eh bien tu reçois cette considération et cet amour. C'était il faut rester caché, faut pas trop dire les choses aux gens, hein. Faut pas trop dire parce que si t'en dis trop, ça peut se retourner contre toi. Alors chut, reste discret. Et ces personnes ont grandi avec ça. Et aujourd'hui, dans le cadre de leur entreprise, cette personne doit communiquer. Et on s'est retrouvé devant un problème, c'est que toutes les propositions que je pouvais lui faire ne marchaient pas, ça ne lui plaisait pas. Pas parce que c'était pas bon, c'est parce que dans son cerveau, il y a une injonction qui dit « Eh, il faut rester discret ». Et communiquer, c'est tout le contraire. Donc, mon travail, que ce soit pour aider les gens dans la communication d'entreprise ou alors dans la prise de parole en public ou dans les médias, c'est d'abord de faire parler les personnes pour constater leur façon de voir la vie. Quelles sont les idées qui viennent les limiter dans leur action? Est-ce que ces idées qui les limitent vont les empêcher de s'exprimer ou pas? s'il y a des croyances limitantes de ce type, eh bien, on commence à travailler dessus. Alors moi, je ne suis pas un thérapeute. Si c'est très, très profondément installé, je vais envoyer ces personnes chez une amie qui est hypnothérapeute. Et ça va aller très vite en réalité. Moi, j'avais un client notamment que je cite souvent parce que je trouve super intéressant. Quand il était petit, ses parents et ses grands-parents lui faisaient raconter sa journée. Et au bout d'un moment, il disait « Non, mais c'est pas intéressant. » Et quand il me raconte ça, il me le raconte sans s'en rendre compte. Et je dis « Hop, attends, excuse-moi. » Parce que sa problématique, c'était que systématiquement, quand il prenait la parole, au bout de 5 minutes, il perdait pied, il devenait tout rouge. Et le souci est que son métier était le poussait à prendre la parole régulièrement. Et donc, quand il me raconte ça et qu'il ne percute pas, je dis « Attends, qu'est-ce que tu viens de me dire là ?» Et quand il le répète, il réalise, il fait le lien, il réalise qu'en fait, il est en train de suivre l'injonction, ou en tout cas qu'il avait reçue de ses parents et de ses grands-parents, c'est « Tais-toi, parce qu'en fait, ce que tu dis, ce n'est pas intéressant. » Donc, une fois qu'on avait repéré ça, après, bah, c'était extrêmement facile, d'abord, pour lui, d'écrire une autre croyance, parce que ces croyances-là, pour s'en libérer, il faut les remplacer par une autre qui est beaucoup plus intéressante et qui va rendre tous les possibles réalisables. Et une fois qu'on a mis ça en place, et ben, c'était très très rapide, parce qu'en fait, c'était un mec super intelligent. Il n'y avait aucun souci. Il y a très peu de gens qui ont des soucis oratoires en réalité. C'est surtout des soucis dans leur tête. Après, oui, il y a de la technique à connaître. Il y a des choses de ce type et je suis là aussi pour ça. Mais ça va vite en général.
Justement, c'est ce que j'allais aborder aussi. Est-ce que tu considères que les grands orateurs dont on parle souvent, je ne sais pas, par exemple Martin Luther King ou d'autres qui sont cités en exemple, ont tous le même type de technique où chacun arrivait à s'approprier la façon dont il imagine la prise de parole en public pour que ce soit sa façon à lui de s'exprimer?
Il y a des principes qui sont essentiels. Pour moi, ils sont de l'ordre de 3 ou 4. Alors, le premier, c'est d'arriver devant son public et de le regarder. On crée le contact. La plupart du temps, les gens arrivent devant le public et commencent à parler. En fait, quand ils font ça, ils créent une sorte de mur d'invisibilité avec la parole. Ils se cachent derrière leurs mots et ils pensent que les gens ne vont pas les percevoir si ils disent des choses intelligentes. C'est vraiment pas la chose à faire. La première chose, c'est de se poser, de regarder les gens, de leur sourire. Donc, je me pose, je regarde mon public, je crée le contact. La deuxième chose, je lui souris. Parce que quand vous lui souriez, il va vous sourire. Même dans le métro parisien, ça marche.
C'est vrai.
Ensuite, la troisième chose, c'est de respirer. Voilà. Ces trois choses-là, elles sont, à mon avis, essentielles et elles doivent être pratiquées par toute personne qui prend la parole devant un public. Parce que si vous ne créez pas l'adhésion de ce public, il ne va pas vous écouter longtemps. Et pour créer cette adhésion, il faut déjà le regarder, prendre le contact, montrer que vous vous intéressez à ce public. Si vous êtes concentré sur vous-même pendant que vous parlez, c'est mort, c'est mort. Il faut être concentré sur les gens. Vous devez être normalement crevé à la fin d'une prise de parole parce que vous avez porté la salle de 20, 30, 50, 100, 1000 personnes. Vous l'avez porté à bout de bras. Ensuite, je pense que c'est une erreur d'essayer de copier les grands orateurs. Moi, je croise beaucoup de start-upers qui essayent de copier Xavier Niel ou Steve Jobs. C'est une erreur. Parce qu'on a tous une personnalité et il faut respecter cette personnalité-là. Et on n'est jamais meilleur que quand on fait ce qu'on sait faire naturellement. J'ai eu un client qui est venu me voir. C'est un mec super introverti. Pas forcément super souriant comme ça, voilà, un mec très gentil mais vers lequel vous n'iriez pas forcément parce que il n'est pas super avenant. Et chaque fois que je lui proposais un exercice, c'était non, exercice de théâtre, de chant, de genre de choses, rien. Et puis à un moment donné, Je me rends compte qu'il faisait pas mal d'humour noir. Et je lui dis, tiens. Et donc, un jour, je lui dis, voilà ce qu'on va faire. On va faire de l'humour noir. Oh non, non, non. Je lui dis, attends. Et donc, je lui dis, je vais t'envoyer des liens, hein, Blanche Gardin, d'autres humoristes comme ça. Et il me dit, ah ouais, ça me plaît bien. Et du coup, on a écrit un pitch, puisque c'est un start-upper, on a écrit un pitch où il n'a pas eu besoin de forcer sa nature, il est resté ce qu'il était. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était mais détonnant, quoi, parce que c'était plein de bon sens, et en plus c'était drôle. C'était plein d'humour noir, son pitch. Et ça marche, mais d'enfer. J'en ai un autre qui, lui, c'est une start-up scientifique, et donc il pensait qu'il fallait être dans le technique pour que ça fonctionne, très, très sérieux, voilà. Donc au bout d'une minute trente, il m'a saoulé. Il m'avait demandé de venir le voir. Au bout d'une minute trente, il m'a saoulé. J'écoutais plus, j'étais ailleurs. C'était chiant, quoi. Et donc, quand on a commencé à travailler ensemble, je me suis rendu compte qu'il était super drôle, quoi. Et je lui ai dit, mais comment tu peux faire aussi chiant alors que t'es super drôle dans la vie? C'est pas possible, enfin. Et je lui ai dit, ben écoute, c'est ta personnalité qu'il me faut. Parce que sinon, on passe à côté de toi, quoi. Parce que un orateur, on va pas se souvenir forcément de ce qu'il va dire. Mais on va se souvenir de ce qu'il était, de ce qu'il nous a renvoyé, de ce qu'il nous a fait ressentir quand on l'a écouté. Ça, on va s'en souvenir. Donc, il faut absolument être soi-même quand on prend la parole. Et donc, on a écrit avec lui un pitch qui correspondait à sa personnalité, qui était drôle du coup, mais toujours informatif. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Parce que forcément, quand vous êtes avec des choses drôles, vous maintenez l'attention des gens. Et donc, vous renforcez les potentialités d'être reçu dans votre message.
Du coup, tu parles de réception du message, tout à l'heure d'adhésion. Je voulais savoir aussi par rapport au lien entre le charisme et l'influence, comment garder son sens critique face à une personne charismatique?
Alors, le truc, c'est souvent nous, hein, le problème, c'est pas l'autre, hein. on a souvent besoin d'adorer ou d'admirer des gens. C'est nous qui leur attribuons un rôle et c'est à nous de changer. C'est tout. D'arrêter de placer des gens au-dessus de nous. En fait, on est tous des êtres humains. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une valeur qui est la même. C'est-à-dire qu'on a une valeur d'être humain. Si on place des gens au-dessus de nous, ben, moi, ça me pose... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je rencontre Macron, il est fort probable qu'au bout d'un certain temps, je lui demanderai la possibilité de le tutoyer parce que... et ça sera la même chose que si je rencontre... Vous voyez, j'interviens dans auprès de masters ou enfin auprès d'étudiants et tout ça. Mes étudiants, je leur dis, je vais vous tutoyer. Alors, ça me semble pas normal que moi je vous tutoie et que vous me vous voyez. Donc, je vais insister pour que vous me tutoyez aussi. Je sais que c'est pas l'habitude en France et que vous allez avoir du mal. Mais je peux pas, moi, vous tutoyer et vous me vous voyez. Donc, ça va pas le faire. Voilà. Moi, j'estime qu'on est sur un plan d'égalité. Et déjà, mes étudiants, je leur apprends ça, en fait, en leur disant, bah, écoutez, vous... le tutoiement, c'est pas forcément... on peut tutoyer et se sentir supérieur. Hein. mais quand je fais cet exercice-là, c'est pour les faire réfléchir aussi sur le fait que peut-être qu'ils me placent à un niveau où je suis pas censé être. Parce que quand on fait ça, bah, déjà, on s'enlève une possibilité d'avoir un esprit critique.
Merci beaucoup. J'aimerais terminer par une dernière question un peu plus personnelle. Tu parlais tout à l'heure de la quête d'identité. Est-ce que tu es arrivé au bout de cette quête? Et est-ce que le fait d'avoir été chroniqueur et là de continuer dans la communication t'a aidé?
Alors, c'est marrant parce que le journalisme, la radio, la télé, et même la presse écrite, c'est probablement une quête de moi. Quand j'ai animé cette émission sur l'homosexualité, on m'a souvent demandé si moi-même j'étais homo. Non, rien à voir. Mais souvent, chez ces gens que j'allais rencontrer, il y avait aussi un bout de moi quelque part. Et chez toi, Lydia, il y a aussi un bout de moi quelque part chez chaque individu. Et c'est ça que j'allais chercher. Et c'est super chouette. J'adore. Et je crois que je continuerai toujours. Tu vois, à l'heure actuelle, je fais un documentaire et je continuerai toujours à faire ça parce que c'est super intéressant. Maintenant, je crois que je sais qui je suis. Donc, j'ai plus besoin d'être dans une quête identitaire. Je suis bien dans ce que je suis. Donc, tout va bien à ce niveau-là. La quête identitaire, elle est terminée.
Super. Sur ces belles paroles, on va clôturer le podcast. Merci beaucoup pour ce moment de partage.
Merci à toi, c'était chouette.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet, ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.